Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est 23h05 en France, 1h05 ici au Qatar. Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là, Mohamed avec nous, supporter de l'équipe de France et du Maroc. On va finalement inverser, on va parler du Maroc avant le Brésil parce que Hamza Rahmani est déjà là. Il est très impatient, Hamza, bien sûr, de participer au débat concernant le Maroc et son quart de finale. Je rappelle, Hamza, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut.
Je rappelle que jamais une équipe africaine n'était en demi-finale de Coupe du Monde. Donc si le Maroc le fait, ce serait évidemment totalement historique pour une sélection africaine. Quelques petites infos, vous dire que donc Aguerd est très très incertain, pas encore officiellement forfait, mais enfin bon, ça part vraiment mal. Ça sent pas bon. Je sais pas si t'as d'autres infos, Hamza, d'autres infos compo éventuelles.
Le remplaçant de Daguerre, normalement, et on le voit souvent depuis le début de la compétition sur des entrées en jeu, c'est El Yamik, et pas Achraf Dari, le défenseur de Brest, qui est peut-être un petit peu surprenant quand on sait que Achraf Dari a toujours et longtemps été considéré comme le troisième central derrière Saïs et Aguerd, sous Vahid, mais aussi sous Regragui lors des matchs amicaux du mois de septembre. Peut-être qu'il paye ses prestations peut-être un peu plus compliquées ces dernières semaines avec Brest, et c'est donc Jawad El Yamik qui joue en Espagne à Valladolid qui devrait le remplacer en défense centrale.
Avant qu'on rentre sur le terrain sportif, j'aimerais quand même dire un mot de contexte ici. Alors, Royal Air Maroc va affréter 7 vols là dans les heures qui viennent, Casablanca, Doha, pour ramener les supporters. Donc on parlait des 35 000 supporters algériens. Là déjà, il y a une communauté marocaine très forte ici, les travailleurs, tout ça. Donc il va y avoir un stade full Maroc hein, pour ce match face au Portugal. Je peux Mohamed, tu confirmes peut-être toi qui vis ici.
Ouais, je confirme. Ouais. En plus, on a vu les 3 matchs de poule du Maroc plus le 8e de finale. C'était à 90% marocain. Et on attend encore une grosse arrivée de supporters. Ouais.
Et alors, il y a une sorte de solidarité arabe qui se met en place. C'est-à-dire que, en gros, toute la sphère maintenant arabophone est pro-Maroc. La mère du cheikh, du chef de l'État ici, habillée en rouge au match. Enfin voilà, il y a un truc comme ça qui est en train de naître. On voit les drapeaux marocains sur les immeubles ici qui commencent à sortir. C'est assez étonnant.
On sent vraiment une ferveur et une solidarité. On dirait un peu de façade parce que si on regarde l'historique, il y a un peu toujours des soucis entre les pays arabes. Mais là, c'est la beauté du football et sa singularité. Quoi. Il n'y a que le football qui peut unir les nations autour d'un ballon. Et
non, mais surtout, moi, je pense que t'as raison, il y a des conflits politiques extrêmement durs dans le monde arabe, y compris dans les pays du Golfe. Mais ça, c'est des histoires de dirigeants. Moi, je pense que les populations, peut-être que c'est ça. Le foot, il faut surtout pas rester au niveau des dirigeants. Enfin, sinon, on se met une balle dans la tête. Hein. Si on suit ce que nous dit l'Infantino depuis le début de la compétition, on peut plus croire au football. Donc,
comment
il faut
croire
l'Infantino. Il faut plus croire quand même au peuple du football. Et je comprends par contre que les qui je connais pas bien, évidemment, bien ces pays-là, mais j'imagine qu'il y a une solidarité dans les peuples arabes, peut-être, autour de cette compétition-là. Et ça, c'est quand même le fait marquant de cette compète-là, c'est ça, c'est la passion du football dans le monde arabe et la fierté du monde arabe au-delà de toutes les polémiques. Enfin, c'est pas des polémiques d'ailleurs. Hein. Moi, je parle pas de polémiques. Ce qui se passe au Qatar, c'est pas des polémiques. C'est des faits extrêmement graves. C'est une catastrophe humaine. Donc, c'est pas des polémiques, c'est une catastrophe humaine. Mais une fois que la compétition est lancée, il y a quand même cette passion du foot qui est partagée et qui fait quand même quand on est comme nous des observateurs
Stéphane,
extérieurs. À ça, pardon Gilbert, je termine juste, ça fait chaud au cœur de voir ça quand même.
C'était un des arguments de Platini à l'époque. Il disait pourquoi est-ce que le monde arabe n'aurait pas droit aussi à une compétition internationale. Il n'y a jamais de Jeux Olympiques, de Coupe du Monde.
Alors d'abord, c'est un argument a posteriori parce que je n'ai jamais entendu dire ça avant, hein, Platini. Donc c'était une façon mais c'était intelligent comme il est. Donc c'était une façon habile de retomber sur ses pattes. Mais par contre, c'est un vrai argument. Et moi je suis depuis très longtemps partisan parce que je suis pas, comme beaucoup d'entre nous, souvent allé au Maroc. la Coupe du Monde aurait dû avoir lieu au Maroc. Le Maroc a fait 5-6 candidatures déjà pour la Coupe du Monde. Non, mais chaque fois, ils ont été retapés. Et ça aurait été bien plus légitime.
Ils se sont fait arnaquer, surtout.
Oui, sans doute.
Non, mais ils se sont fait arnaquer parce qu'il y a des Coupes du Monde où ils étaient candidats, où en gros, ils se sont fait passer devant par des pays qui ont donné des valises.
Quand on a vu la candidature de l'Afrique du Sud en 2010, quand on voit le reportage FIFA sur Netflix, on comprend ce qui s'est passé.
Exactement.
Et je pense que le Maroc peut être floué là-dessus.
Mais s'il y avait un pays arabe qui devait l'avoir en priorité, je pense que c'était à l'évidence le Maroc ou l'Égypte, qui est aussi un grand, enfin, d'un autre contexte et tout, mais autre, je ne sais pas d'ailleurs si l'Égypte a déjà été candidate ou pas à l'organisation de Coupe du Monde. Mais l'Égypte 2000, est aussi
pour 2030.
Ils le sont maintenant.
2030, voilà. 2030, c'est la candidature assez folle avec la Grèce, l'Égypte et l'Arabie Saoudite.
Ah oui, ça s'arrive un peu à rien d'ailleurs.
C'est encore un concept.
Alors d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de ça, il y a un truc intéressant. Je n'avais pas prévu d'en parler là, mais enfin, il y a un haut responsable de la FIFA qui a expliqué aujourd'hui que cette Coupe du Monde au Qatar serait sans doute la dernière dans un pays unique. Bon, nous, on a toujours connu les Coupes du Monde dans un pays unique. Et il dit voilà, en fait, maintenant. C'est difficile à supporter souvent économiquement pour un seul pays. Donc le sens de l'histoire, c'est d'aller vers des candidatures multiples comme États-Unis, Canada, Mexique pour la prochaine. Hamza parlait de ce trio. C'est vrai que c'est improbable. Grèce, Égypte, Arabie Saoudite. Tu te demandes.
Il y a
un
autre trio, Gilbert, qui est totalement improbable. C'est Espagne, Portugal, Ukraine.
Oui, effectivement. Bon, on peut se faire des délires, hein. Je sais pas si vous avez des idées, un petit Norvège, Japon, Pérou, par exemple.
On a posé, je pense que c'est une question qui va maintenant, de toute façon, quoi qu'il se passe, être au cœur des organisations de Coupe du Monde, c'est la question des droits humains, qui a été portée, évidemment, après la catastrophe qui s'est passée au Qatar. Mais là, la prochaine Coupe du Monde, le débat, la Coupe du Monde n'est pas entamée, que le débat a déjà lieu, c'est évidemment la catastrophe écologique que sera une Coupe du Monde partagée entre les États-Unis, le Canada et le. Quand tu nous parles là des avions qui viennent demain du Maroc à Doha, et on le comprend très bien, qu'est-ce que ça va être pour. T'imagines une Coupe du Monde entre l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que tu dis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Grèce. Voilà. Donc, on a vu au dernier Euro.
Ça reste quand
aussi,
même plus proche que Canada, Mexique, États-Unis.
Ouais, c'est vrai, oui. T'as raison.
Il y a moins de distance, t'as raison.
T'as raison. Mais.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la Coupe du Monde au Qatar, elle a un mérite. C'est d'avoir cette concentration de tous les matchs dans une, entre guillemets, une seule ville. Et franchement,
je pense que ce sera unique dans l'histoire du foot.
L'héritage, il pose quand même question. Moi, je veux bien, évidemment, mais on va évidemment observer de près qu'est-ce que vont devenir ces 10 stades.
Ça c'est dingue.
Ça, c'est complètement.
Là, tu as raison.
C'est surréaliste.
Moi, j'ai appris.
C'est surréaliste.
D'ailleurs, le stade 974. Ouais. Normalement, qui est démontable.
Il est en train d'être démonté. Figure-toi qu'il est pas loin de l'endroit où on habite. Et oui. Le démontage a déjà commencé.
Et il va où alors ce stade ?
On parlait il y a quelques mois d'un stade qui partirait effectivement en Afrique et peut-être en Tunisie. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que si l'Uruguay obtient l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec, je crois que c'est l'Argentine, le Paraguay, il me semble le Chili, ce stade ira en Uruguay.
D'accord. Ah bon?
Non, mais ça pourquoi, voilà. Mais pourquoi pas? Ça, c'est une idée. Ça peut être une idée, se dire.
Non, mais il y a des stades en fait. Tu as raison sur un point là-dessus. Franchement, il y a des stades. Bon, alors, on a parlé longuement du bilan humain de construction des stades. Très franchement, le résultat, il est assez dingue. Parce que les stades, ils sont tous, ils sont fous, ces stades. La tente bédouine géante, là.
C'est mon préféré.
Le stade de Lusail, 80 000 personnes. En France, on n'a pas des stades comme ça, hein. Et après, il n'y aura rien dedans. Le stade est de Education City où se joue les matchs France-Tunisie. Il va être transformé en un stade pour les remises de diplômes. C'est grotesque. Enfin, je veux dire, un stade de 20 000 places pour remettre les diplômes.
Mais les stades en kit, c'est une idée à creuser quand même.
En capacité.
Ouais, ils vont être réduits en capacité. Ouais. Enfin bon.
Plus de moitié, ouais.
Bon, effectivement, il y aura sans doute des éléphants blancs, comme on dit, c'est le terme. Habituel.
Ouais, mais tu sais, ça le problème, de l'héritage des grands événements, c'est un problème qui n'est pas lié au Qatar. C'est ça aussi qu'il faudrait dire. C'est-à-dire que malheureusement, et c'est pas une bonne raison, c'est pas une raison pour le refaire, hein, mais tu vas en Grèce suite aux Jeux. J'avais fait le sujet sur les Jeux en Grèce.
Catastrophe intégrale.
Alors en Grèce, ça a été une catastrophe avant parce qu'ils ont galéré pour les faire. Ça a été une catastrophe en partie pendant parce que tu avais du mal à remplir les sites et c'est une catastrophe après parce que ça veut dire des friches non utilisées. Donc maintenant d'ailleurs dans les cahiers des charges normalement des Jeux Olympiques, en tout cas, du CIO, il y a l'héritage derrière. Et c'est Londres, parmi les premières candidatures qui ont été les plus fortes là-dessus, parce que, par exemple, le village olympique devient logements sociaux, la piscine olympique...
Londres, c'est l'édition olympique où il y a eu le moins de construction pour les Jeux.
Et la piscine, en fait. Et la piscine olympique aujourd'hui, dans le quartier, j'ai perdu le nom, Gilbert, où on était là pour les Jeux, ce quartier à l'est là, de Londres, est devenu une piscine municipale dans laquelle les gens peuvent aller nager, etc., etc. C'est ça la réalité. Donc effectivement, c'est pas jouable au Qatar, mais t'as raison Stéphane, si on trouve des solutions pour un héritage quel qu'il soit, quitte à ce que soit déplacer les stades ailleurs, pourquoi pas ailleurs d'ailleurs, effectivement, si j'entends en Tunisie ou ailleurs, pourquoi pas. Mais l'histoire des éléphants blancs, comme tu dis Gilbert, et de l'héritage, c'est une prise de conscience récente. On va voir, Paris normalement a la même exigence, les mêmes devoirs que les précédents, et va devoir transférer, on va dire, les activités d'un site pour la population, pour des clubs sportifs. On verra si ce sera le cas.
Bon, Paris 2024, là ils ont une urgence à gérer, c'est déjà de régulariser les gens qui bossent les infrastructures. Enfin bon.
Et puis pire que les éléphants blancs, il y a la situation, pour conclure sur les stades. Je prends un exemple, le Gabon, le stade Omar Bongo qui a été construit pour la Coupe d'Afrique, qui n'a jamais été terminé. Je crois que c'est d'ailleurs Lionel Messi qui avait posé la première pierre de ce stade au Gabon, et qui encore aujourd'hui est totalement laissé à l'abandon. Et comme la Coupe d'Afrique est passée, c'est un stade qui ne sert à rien, quoi.
Alors, bon, maintenant revenons aux sportifs. Hamza, est-ce que, franchement, le Maroc peut le faire ? On a du mal à l'envisager quand même, parce que entre la prolongation, les blessures, l'adversaire qui a été étincelant face à la Suisse, on a l'impression d'un match très déséquilibré, en fait.
Déséquilibré, je pense pas, parce que le Maroc, et le Maroc l'a montré sur cette Coupe du Monde, a montré de grosses certitudes sur le plan défensif. Et une équipe qui concède peu de buts, c'est une équipe qui peut embêter tout le monde. Et une équipe qui concède peu de buts, c'est une équipe qui, on l'a vu comme face à l'Espagne, peut t'emmener en prolongation et au tir au but. Il y a effectivement cette interrogation, comment est-ce que El Yamir va remplacer Aguerd en défense centrale. Moi, la réelle interrogation et le questionnement que j'ai sur cette sélection du Maroc, c'est surtout sur l'aspect physique, puisque le Maroc sort donc d'une prolongation face à l'Espagne. Là où le Portugal va arriver frais, le Portugal a pu reposer quelques joueurs déjà face à la Suisse, et le Portugal surtout avait fait reposer ses cadres lors du dernier match de poule face à la Corée du Sud. Donc physiquement, on aura un déséquilibre, je trouve, assez important dans l'effectif, dans la gestion justement des deux effectifs. Je crois qu'il y a eu 8 changements effectués par Fernando Santos entre le match face à la Corée et le 8e de finale face à la Suisse. Est-ce que Walid Regragui va peut-être tenter quelques nouveaux joueurs? Je pense à Sabiri au milieu de terrain, peut-être à Bourla le Toulousain devant, parce que effectivement, s'il repart avec ce même 11 à l'exception donc du changement en défense centrale, il y a cette interrogation, est-ce qu'ils pourront tenir tout un match physiquement à l'exigence d'un quart de finale de Coupe du Monde?
Stéphane et Florent, votre avis?
Moi, j'avoue que j'ai l'impression que le prime du Maroc est passé, que l'histoire du foot, c'est aussi des progressions marche après marche, et que je vois mal comment le Maroc pourrait s'en sortir, et que même s'ils ont pris, j'ai été un peu surpris par la violence parfois des commentaires d'ailleurs sur le fait que leur
incapacité à stratégie défensive
et leur stratégie défensive. J'ai envie de dire qu'on est dans un tournoi, qu'à un moment donné là il faut observer ce qu'il y a en face et comment tu peux t'en sortir, et que quand on avait analysé le match Maroc-Espagne avant qu'il ait lieu, on s'était dit bah oui, ce Maroc là en jouant comme ça peut embêter l'Espagne. Bon, il l'a embêté assez peu finalement, mais ils les ont bloqués. Je suis pas choqué que ça se passe comme ça dans un tournoi, que tu prennes la solution la plus évidente pour passer. En revanche, la répétition de ces matchs-là, les efforts que ça demande défensivement et les absences liées à ça et la fatigue dont parle Hamza, là je pense que ça fait la diff. Alors à ce moment-là de la compète, pour moi ça fait la diff. Je parle même pas du fait que le Portugal soit brillant ou pas. Là maintenant, ça va aussi jouer physiquement. Et dans ce cadre-là, il faut reconnaître que le Portugal a parfaitement géré sa compète depuis le début. Donc je suis inquiet pour, je suis même un petit peu inquiet pour le Maroc.
Stéphane, ton avis dans quelques instants, et puis on parlera également de Ziyech, sujet récurrent de débat avec Hamza depuis le début de la Coupe du Monde. Et dès qu'on parle de Ziyech, on enflamme les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Mais on va pas se gêner pour le faire dans quelques instants. À tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Florent Gautran, Stéphane Guy, ils sont là. Mohamed est avec moi ici au Qatar, dans notre studio de Doha. Il suit la Coupe du Monde, il habite ici, il supporte la France, le Maroc. Donc, il participe au débat avec nous. On continue. Stéphane, est-ce que tu es d'accord? Évidemment, j'allais l'oublier, Hamza Rahmani, notre spécialiste des sélections africaines, toujours là, au stade des quarts de finale. Bravo, Hamza. Stéphane, est-ce que tu es d'accord avec Florent sur son constat, là, sur les difficultés à venir, sans doute, du Maroc?
Oui, évidemment, tout ce qu'a dit Flo, notamment sur l'épuisement des Marocains et les absents à venir face au Portugal. Mais moi, ce que je crains surtout pour les Marocains, c'est le Portugal. C'est-à-dire que je pense que, contrairement à Flo, quand il dit c'est pas tellement le Portugal le problème, moi, je pense que le Portugal, c'est un vrai problème, parce que, on a vu depuis le début du tournoi une équipe qui est bonne dès l'entame du tournoi et qui à mesure qu'elle avance emmagasine en confiance. Et puis la ligne d'attaque du Portugal, c'est autre chose que la ligne d'attaque de l'Espagne, quoi. Donc ils vont trouver, à mon avis, beaucoup plus de solutions que les Espagnols l'ont trouvé face au Maroc. Si on peut imaginer une même configuration de match, j'imagine pas que les Marocains vont se transformer en... Après, peut-être que Hamza va peut-être me contredire, hein, parce qu'il connaît mieux que moi les solutions à la disposition du coach Regragui, et peut-être que justement il va peut-être basculer dans une version plus offensive du fait qu'il a notamment en défense centrale des grosses incertitudes.
Et surtout que contrairement, comme tu le disais, aux Espagnols, le Portugal a différentes armes offensives, mais surtout différents profils. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui sera titulaire entre Cristiano et Gonçalo Ramos.
T'as André Silva
qui est potentiellement sur le banc. Ouais. On l'imagine, mais quoi. Après, c'est compliqué, hein, quand t'as un mec pour sa première titularisation qui met un triplé en sélection, c'est quand même intéressant. T'as Raphaël Léon qui est peu utilisé, qui est utilisé en sortie.
Mon idée, c'est qu'ils vont pas l'enlever. Hein. Le mec a mis un triplé, il va être titulaire, il sera titulaire contre les Barjoueux. Ouais. Ah bah là, le tremblement de terre, c'est vrai. Alors après, est-ce qu'il peut remettre Ronaldo, les associés, ça, mais je crois pas. Je pense que là, le tournant a été pris. Hein.
En fait, il y a tellement de solutions offensives différentes pour Fernando Santos que je pense modestement et en toute humilité que Regragui, justement, aurait intérêt à ne pas retenter un coup comme face à l'Espagne avec cet aspect défensif mis en avant, même si, et j'ai entendu beaucoup de commentaires extrêmement sévères, le Maroc aurait aussi pu, sur des contres mieux négociés, mieux négociés, marquer. Je pense notamment à l'attaquant de Paris chez Dira, qui a raté pas mal de situations. Mais peut-être qu'il y aurait autre chose à tenter dans cet aspect, parce qu'effectivement, avec les différents profils offensifs côté portugais, peut-être qu'il y aurait plus de solutions et du coup plus de soucis pour Walid Regragui à contrer cette force de frappe. Et en plus, le Maroc a la capacité offensive de faire mal, je pense, à cette équipe, à cette sélection portugaise.
Bah, c'est un peu ce qu'on a vu un peu contre l'Espagne, malgré tout. Moi, je trouve que ça va être une grande mauvaise foi, d'abord pour reprocher au Maroc sa façon de jouer, parce que ils ont fait un exploit, un véritable exploit, donc chapeau à eux. Mais par contre, quand on a effectivement Boufal d'un côté, Ziyech de l'autre, alors, tout dépend évidemment de la fraîcheur de ces hommes-là, de leur NDCI. Enfin, il y a des vrais joueurs de foot au Maroc, donc ça peut poser des... Mais bon, le Portugal, pour moi, c'est top complet. Mais
là où je rejoins Hamza, sur la stratégie, en tout cas, parce que quelque part, qu'est-ce que le Maroc a à perdre, si ce n'est peut-être un drame qui serait une volée comme le Portugal vient d'en mettre une, mais ils ont pas grand chose entre guillemets à perdre. Donc c'est vrai que, tu sais, le Sénégal, avant son premier match, tout le monde a dit l'absence de Mané fait que, en gros, ils vont attendre derrière. Pas du tout. Cissé, il a fait une équipe qui a maintenu ses principes, qui a tenté des choses, et ça a surpris l'adversaire immédiatement, tu vois. Donc c'est vrai que je rejoins Hamza sur l'idée que là où il faut tenter quelque chose, c'est de se dire tout le monde nous attend derrière, recroquevillé dès la première minute. Pas du tout. Et puis après, et en gros, il faut marquer. Pour faire simple, le seul truc pour éventuellement mettre un peu de pression haute, faut marquer. Donc allons-y, quoi. Allons-y et renversons la charge de la preuve. Et puis c'est vrai que je regrette beaucoup, pour l'avoir beaucoup suivi et encensé ici sur RMC, je regrette beaucoup l'absence d'Aguerd, qui est vraiment un joueur qui a peu de chance, parce qu'il s'est blessé aussi à son arrivée en Angleterre. Il a de très très grosses qualités de relance, il a un pied gauche vraiment remarquable, un jeu de tête impressionnant.
Super défenseur.
Défenseur relanceur, c'est vraiment le football moderne. Vraiment, ça, il va manquer.
Ah, c'est une grosse perte pour le Maroc, ça va faire très très mal. Mmh. Aguert, franchement, quand on le voit sur le terrain, c'est un guerrier.
Mais il y a Amrabat au milieu de terrain.
Alors justement, allons-y, parce que si le Maroc veut marquer, il faut un grand Ziyech. Et moi, je suis désolé, le match contre l'Espagne et ceux d'avant, moi, j'étais au stade quasiment à tous les matchs du Maroc. À chaque fois, je me dis, OK, je vais regarder Ziyech. Et à chaque fois, bah, je vois Amrabat, en fait. Qui fait un mondial extraordinaire. Amrabat.
Déçu de Ziyech, Gilbert, tu trouves qu'il apporte pas ce qu'il devrait.
Ouais, ben moi, alors, en fait, je suis déçu parce que, si tu veux, il y a eu de telles, une telle attente, de tels sketchs sur le cas Ziyech dans ces derniers mois. C'est quand même très rare qu'une fédération impose à un sélectionneur de prendre un joueur. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui, d'ailleurs, c'est Vaïda Lelezik là-dessus. Il était comme il est tout le temps, c'est-à-dire d'une rectitude absolue. Il dit, vous m'imposez de ce mec, ben, je le prendrai pas, en fait. Et lui, la fédé. Si demain Le Graët se pointe en disant à Deschamps, je veux que tu prennes un joueur, imagine le scandale que ça ferait chez nous. Là, c'était comme ça, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, il est là, ça a coûté la tête à Vaïda Lelezik. Et pardon, mais Hamza, je te pose la question en premier. Est-ce qu'il répond aux attentes? Pour l'instant,
face à l'Espagne, c'était un match compliqué parce que dans son profil, on l'a souvent, en tout cas moi, je l'ai souvent trouvé rigoureux dans le replacement défensif. Et c'est un aspect que moi, je n'attendais pas forcément.
C'est parce que t'attends de lui qu'il prenne le jeu à son compte, qu'il soit décisif.
On est d'accord, Gilbert. On est totalement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Ziyech, déjà sur cet aspect-là, c'est entre guillemets une, je vais pas dire une agréable surprise, mais c'est déjà un bon point pour lui. Après, c'est vrai que dans la folie, là où on a vu un Sofiane Boufal extrêmement intéressant, percutant, dribbleur, comme on le connaît finalement, Sofiane Boufal, qui aura peut-être l'opportunité d'aller voir ailleurs après un tel mondial, c'est vrai que Ziyech, offensivement, a peut-être eu plus de mal, mais c'est aussi le profil du joueur qui fait qu'il est peut-être un peu moins dans la folie comme peut l'être un Sofiane Boufal. Après, sur l'ensemble de sa Coupe du Monde, je l'ai déjà dit, son premier match, Ziyech, il est catastrophique face à la Croatie. La première période du deuxième match face à la Belgique, je le trouve pas transcendant. Il fait une bonne deuxième période. Le match face au Canada, il le lance parfaitement avec son but qu'il inscrit, je crois, la quatrième ou cinquième minute, en tout cas très, très tôt dans le match. Bon, il fait un mondial, dans l'ensemble, pour l'instant, plutôt correct. Mais c'est pas le joueur que je mettrais en avant, en tout cas dans ce mondial côté marocain.
Mohamed, tu dis quoi toi?
Ah moi, ça, je suis pas trop d'accord avec toi. Hein. Je suis fervent supporter du Maroc et franchement, j'attends beaucoup plus de lui et j'aimerais que demain il prenne le leadership de cette équipe offensivement et c'est à lui de créer des brèches, c'est à lui de créer des choses offensivement. Et, il doit être le talent numéro un de cette équipe. Mais jusque là. C'est pas ce que je vois. Ce que je vois sur le terrain, c'est une grosse défense. Il y a beaucoup de joueurs qui passent devant lui en termes d'impact sur l'équipe. Amrabat, numéro 1.
On est totalement
Boufal,
d'accord.
Aguerre. Oui, mais il fait pas une bonne Coupe du Monde.
Saïs, moyen. Hakimi, ouais.
Masraoui, ce que je dis. Ah oui. Unai, il est numéro 11 face à la Belgique. Il y a des bouts de match où il est plutôt intéressant. Mais effectivement, par rapport au joueur que c'est, au statut qu'il a en sélection, au fait que ce soit l'un des joueurs qui évolue dans un grand club, même s'il est plutôt remplaçant ou remplaçant de jeu remplaçant à Chelsea. Mais c'est vrai, évidemment qu'on en attend beaucoup plus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un joueur qui fait son retour après plusieurs mois d'absence, avec un nouveau sélectionneur qui lui fait totalement confiance et avec l'attente qu'il a, oui, il répond pas. Enfin, pour l'instant, il n'est pas suffisamment performant, mais c'est pas une Coupe du Monde pour l'instant catastrophique, c'est ce que je veux dire.
Non, pas catastrophique, mais demain, ça doit être un match pour lui.
Samedi, ouais. Flo, Florent voulait rajouter. Flo et Stéphane voulaient rajouter un truc sur Ziyech ou.
Non.
Ou on a tout dit.
Je laisse les débats tels qu'ils ont été menés brillamment par nos deux intervenants.
Et juste sur Amrabat, quand même un mot. Il joue à la Fiorentina, Amrabat. Très franchement, je pense qu'il a l'envergure d'aller plus haut.
Attention Gilbert, quand même. Attention, toujours un élément quand on apprécie ces tournois, c'est qu'il y a ces joueurs de tournois, il y a ces joueurs qui sont sous le maillot de l'équipe nationale, transcendés dans un environnement et qu'on revoit pas forcément ensuite. On prend deux exemples, mais qui sont trop connus. C'est Campbell, le costaricien, qui a été exceptionnel à la Coupe du Monde 2014, qu'on n'a jamais vu en club, jamais à un quelconque niveau que ce soit.
Et Toto Schillaci.
Ouais, aussi. Ou dernière Coupe du Monde, vous vous rappelez de comment Laxalt, qui s'appelait cet Uruguayen,
latéral gauche.
Ouais,
j'en ai un autre, moi,
exceptionnel. On l'a jamais vu. Pardon.
Et Yerry Mina, vous vous souvenez, le défenseur central colombien,
ouais.
qui était dingue, disparu.
Ouais, bah il a été, lui par contre, il était, alors je l'ai vu à Everton, il était pas mal du tout et il s'est blessé gravement. Mais en tous les cas,
je suis
Pardon.
Je rejoins totalement Stéphane. Il y a des joueurs. Alors, je suis pas sûr que Amrabat soit dans ce profil. J'aimerais effectivement le voir dans un club plus important.
C'est un titulaire indiscutable, Hamza, à la Fiorentina.
Ouais, il joue pas mal. Après, ouais. La Fiorentina, c'est un club qui aujourd'hui est en milieu de tableau. Ils sont pas vraiment concernés par la lutte pour le maintien ni par les places européennes. Donc, à voir sur l'ensemble d'une saison dans un club, au sein d'un club qui peut-être jouerait l'Europe. J'aimerais bien le voir en première ligue. Il a débuté quasiment tous les matchs cette saison avec.
Il a été très bon à la CAN déjà.
Ouais, ce qui m'amuse, c'est que c'est son frère qui joue en 2018. C'est ça?
Oui.
Et son frère, je me rappelle avoir commenté le Maroc à la Coupe du Monde 2018. J'avais trouvé son frère extraordinaire. J'ai dit, mais où il est? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est pareil, il jouait dans un club
totalement différent.
De seconde zone aux Pays-Bas, ou je sais plus où il était, mais. Et c'était un joueur.
Oui, la famille Amrabat vient des Pays-Bas.
Un joueur sur le côté, très explosif, et voilà.
C'était Noureddine Amrabat, son frangin.
C'est exactement. Ça. Exactement. Mmh. Mais pour revenir sur le débat précédent, et moi le théorème, ce que j'appelle un théorème, c'est le théorème des joueurs chiliens qui en sélection avec que ce soit en Copa América ou en Coupe du Monde sont extrêmement performants. Là, tu prends toute la sélection chilienne, du gardien à l'attaquant, à part une ou deux exceptions, les Gary Medel, les Gonzalo Jara, les Beauséjour, les Valdivia, les Edu Vargas. Ces mecs-là, on en entend parler qu'en sélection, et puis en club, tu vois leur parcours parfois assez chaotique. Mmh.
C'est quand même Mbappé chez nous, hein, franchement.
Non, mais en revanche.
Ouais, en club, c'est nul.
Non, mais en revanche.
Beau séjour, lui, par contre, il s'est reconverti comme patron d'hôtel au Chili. Pareil que ça marche très bien.
pas qu'au Chili, d'ailleurs.
Avec un nom pareil, il pouvait faire que ça.
Mais tu sais, pour revenir sur ces joueurs de tournoi, c'est intéressant. Il y a des joueurs de tournoi, c'est une chose. Il y a aussi des joueurs d'équipe nationale. Vraiment marqué, tu sais, et je pense à Griezmann. Je vais te dire, je lui souhaite pas, hein, mais il est en train de devenir plus le joueur des Bleus que le joueur de son club. C'est pas le cas évidemment d'Mbappé, c'est une boutade. En revanche, il y en a pour qui c'est comme ça, pour qui c'est la sélection qui transcende. Je dirais même que pour Griezmann, là, dans les moments où ça a été un peu compliqué dans ses histoires de transfert et autres, ça a même été un refuge d'équipe de France pour lui. Il a toujours été avec son rapport avec Deschamps, il a toujours été plutôt plus heureux et meilleur avec les Bleus là récemment qu'en club.
Dans un instant, l'Espagne et le Brésil au programme de l'After. Hamza, merci beaucoup, bonne soirée, à très vite.
Bonne soirée, messieurs, ciao ciao.
Bonsoir Hamza, bravo.
On se retrouve en demi-finale.
Quel talent.
Je l'espère.
Croise les doigts.
Allez, à tout de suite.
RMC, After Foot, intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilles Darbrivois. 23h38, 1h38 ici au Qatar, 23h38 en France, la libre antenne de l'After dans 20 minutes avec Nico Villas. Pour l'instant, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau, Mohamed qui est avec moi. Mohamed qui me disait que t'as des billets pour tous les matchs, toi, tu t'es bien démerdé. Hein.
Ah ouais, j'ai vu pratiquement tous les matchs de groupe. Et là, j'enchaîne demain Argentine, samedi avec le Maroc. Et après,
tu payes ou t'arrives à trouver des billets au cul du camion?
Non, je paye tous mes billets.
J'ai l'impression que ça doit pas être très compliqué d'avoir des places là-bas, non?
Ah si.
Si, alors, c'est compliqué.
Je m'y suis pris bien en avance.
Je sais pas, j'entendais hier distribution de billets. Alors, je sais pas si c'était un mot comme ça un peu générique, mais distribution de billets à l'ambassade du Maroc pour le match précédent du Maroc.
Ça, j'ai entendu, oui, ils avaient distribué 1500 places parce qu'il y avait pas mal de supporters qui se plaignaient, qui étaient arrivés. Mais moi, j'avais déjà mes places pour le Maroc.
D'accord.
J'avais pris les 3 matchs de groupe plus la qualif en 8e.
Et t'as la place pour la finale?
Et j'ai la place pour la finale aussi.
Bravo.
Et ton budget?
Tu vas voir quel match?
Non, ça je peux pas le dire. Ça.
Ouais, c'est un bon budget de ticket,
ouais.
Mais tu regrettes pas?
Ah non, pas du tout. C'est une fois dans une vie.
Oui, c'est vrai, après tout. Quand on a la possibilité d'en voir autant, là tu vas faire 3 quarts de finale sur 4.
3 quarts de finale sur 4.
Bon. C'est beau.
Ah oui. Même les journalistes RMC font pas ça. C'est dire.
Mais eux, c'est gratos, Gilbert.
C'est vrai.
Ils sont payés pour être là.
Heureusement. Bah, heureusement, quand même.
Ouais. En même temps, c'est mieux que travailler pour de vrai. Hein. On va pas te mentir.
C'est bien, Gilbert. Alors, j'aime que tu gardes cette fraîcheur d'enfant.
Non, ça, on se le dit tous les matins. Fred Hermel, lui aussi, sa vie est à bonheur.
Il se le dit tous les matins quand il se peigne, Gilbert.
Bien sûr. Et Fred aussi d'ailleurs. Salut Fred.
Ça va les amis? Bah oui, je suis très heureux de ma vie, moi. Je trouve que j'ai de la chance.
Tu es là parce que je voulais te féliciter. Hier, tu nous as donné 40 noms comme successeurs. Et bah, t'es tombé sur le bon, dis donc.
Non, je vous ai donné.
Non, c'est pas vrai. Il a dit que favori, c'était De La Fuente.
Ben voilà.
Il l'a dit.
Vous êtes
j'étais vraiment... là, t'as de la chance.
Ouais, merci, parce que toi, t'es honnête. Quoi, parce
sauf que Fred, tu as dit Conrad De La Fuente.
Ouais, non, c'était la grosse blague de je sais pas qui. Voilà. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que les internautes de Marca avaient placé en tête Roberto Martinez, mais que finalement, la logique s'est imposée. Voilà, il fallait un anti-Luis Enrique et la fédération a choisi l'anti-Luis Enrique. Quelqu'un qui est pas cher, qui est sous la main et qui va pas faire de Twitch le soir des défaites.
La dernière fois qu'ils ont fait ça, si je me souviens bien, c'était l'entraîneur des espoirs, là, celui qui est passé après par Séville. Non, celui qui est passé par Séville. Là, qui vient d'être viré. Lopetegui.
Ah, Lopetegui.
Ça s'est pas très bien passé, Fred, après Cléa.
Non, mais c'est-à-dire que Lopetegui avait été viré deux jours avant le mondial.
Oui, c'est ça, il avait filé, ouais, c'est ça.
Ouais, il avait été viré deux jours avant le mondial parce qu'il avait signé avec le Real pour après le mondial. Réal, donc, ouais. Non, mais ce qui s'est passé là, et soyons sérieux, hier soir on parlait de ce nom que personne ne connaissait. Moi je le connaissais parce que je suis spécialiste du foot espagnol, mais ça a été un joueur mineur, ça a été un entraîneur mineur, et c'est quelqu'un qui s'est révélé avec des équipes de jeunes. Donc, comme l'Espagne est en train de miser sur la jeunesse et veut faire évoluer pas mal de joueurs, et plusieurs sont passés entre les mains de Luis de la Fuente dans les catégories inférieures de la fédération, quoi. Donc ça fait une dizaine d'années qu'il est avec les équipes de jeunes. Il a gagné l'Euro des moins de 19. Il a été médaille d'argent olympique.
Bah, les entraîneurs des équipes de jeunes d'Espagne, si je peux me permettre, Fred, hein, ils ont tous gagné.
En général.
Voilà, ah, bien, c'est ils ça. Ont tous bah, gagné ouais, un ouais, titre ouais, européen. C'est phénoménal c'est... l'Espagne chez les jeunes.
Et c'est pour ça que finalement, je trouve que c'est une bonne décision parce que alors. Ce qu'on a appris, c'est que on a fait comprendre à Luis Enrique qu'il fallait pas qu'il reste. On l'a pas viré, mais on lui a fait comprendre que c'était mieux qu'il.
Moi, j'ai vu les réactions des, on va dire, les leaders d'opinion en Espagne. T'as absolument tout des soulagés qui se cassent.
Hein. Ah non, mais c'est les messages de joie, quoi. Ben surtout parce que il a un rapport très compliqué avec la presse. Il a ouvert son
le fait de faire des Twitch là, les médias traditionnels l'ont pris comme une sorte d'affront en fait.
Ben c'est un affront. C'est-à-dire qu'il disait pas grand-chose en conférence de presse et il préférait raconter des trucs sur Twitch. Donc en fait, il voulait prouver que la presse ne sert à rien. Donc voilà et c'est vrai que ça. En fait, il a fait ça sans en parler aux dirigeants de la fédération. Il y a une direction de la com, il y a un président, etc. Et il s'est lancé là-dedans, personne n'est au courant, puisqu'il n'y a pas plu du tout au président, qui était pourtant son plus gros soutien.
Alors que nous, je précise qu'on est sur Twitch tous les soirs, mais le patron est au courant, je le précise.
Eh ouais, bah. Et nous, on perd jamais.
Il a validé.
Le problème, c'est qu'il a fait un Twitch le soir de la défaite contre le Japon. Et ça c'est mal passé auprès du président. Donc, puis vous savez, comme on dit, hein, quand on veut tuer ton chien, on dit qu'il a la peste, quoi, mais qu'il a la rage plutôt. Mais là, tout le monde, oui, notamment au sein de la fédération, trouve tous les défauts à Luis Enrique. C'est vrai que, en fait, il avait déjà ses défauts avant, mais tant que ça marchait, eh ben, on les voyait pas. Là, une élimination honteuse en huitième de finale.
Tant que ça marchait, Fred, le bilan d'Enrique. Si on
Luis Enrique, s'il te plaît, parce que c'est son prénom, c'est un prénom.
Excuse-moi, de Luis Enrique.
Luis Enrique Martinez.
Excuse-moi. Ouais. Le bilan, il a fait trois compétitions, il a foiré les trois, quoi. Voilà, c'est.
Ouais, il fait une demi-finale d'Euro quand même, hein.
C'est vrai, c'est vrai. Non, t'as raison.
Mais le problème. Non,
mais l'Espagne, c'est comme la France ou l'Allemagne, quand tu pars dans une compète, tu pars pour aller au bout.
Oui, mais ils ont fait un bel euro.
Non, mais le truc, c'était l'euro, en fait, ils étaient allés beaucoup plus loin qu'ils imaginaient. C'est-à-dire que l'euro, l'objectif, c'était quart de finale maxi, parce qu'on préparait les joueurs pour ce mondial. Donc c'est demi-finale à l'euro, et là, c'est huitième pourri au mondial. Donc il n'a pas répondu aux expectatives. Et le problème, c'est que on a le sentiment qu'il s'est entêté, qu'il n'a pas partagé, qu'il n'a pas écouté. Il a fait son petit truc dans son coin en prenant des joueurs qui étaient ses joueurs à lui. D'ailleurs, il y a une petite polémique autour de Ferran Torres, qui est le fiancé de sa fille. Donc, et beaucoup de gens se disent, vu le niveau absolument catastrophique de Ferran Torres hein, pendant ce mondial, les gens se demandaient, on fait automatiquement le rapprochement, quoi. Ouais, voilà. Donc,
est-ce qu'il y avait Fred? Parce qu'on a parlé, hier soir de la faiblesse des attaquants espagnols. Est-ce qu'il y avait des joueurs sélectionnables qui n'étaient pas là et qui peuvent nourrir ce débat-là?
Bah oui, en fait, c'est les deux meilleurs. Je l'ai souvent évoqué à l'antenne, c'est les deux meilleurs buteurs espagnols de la Liga. Borja Iglesias du Betis Séville et Iago Aspas du Celta Vigo.
D'accord.
Et tu dis, il est parti qu'avec un seul numéro 9, c'est Morata. Et Morata n'était pas titulaire. Et c'est ça.
Aspas, il était à l'Euro, si je me trompe pas.
Ouais.
Ou à la Coupe du Monde 2018. Bon, puis, il était à l'Euro.
Mais lui, il trouve que qu'Aspas, il marque des buts au Celta parce que tout le monde joue pour lui. Bon, une équipe qui joue pour le mec qui marque des buts, c'est pas étonnant, non, mais lui, il aime pas. Donc, tout ça est... Non, mais je pense que les gens sont plutôt soulagés, même s'ils sont conscients que le problème n'est pas que Luis Enrique. Il a pas foiré une super génération. Non, la génération, elle est pas géniale, c'est tout, voilà. Je sais qu'on peut être, on peut apprécier le jeu technique espagnol, et moi, c'est celui que j'aime, c'est celui que je suis depuis bientôt 30 ans. Mais entre jeu technique et un peu plus, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le jeu espagnol, à outrance de passes, etc., de possession à outrance, n'est plus adapté au football de transition d'aujourd'hui. Voilà.
Mais est-ce que justement, Fred, pour aller plus loin, parce que ce débat, j'ai l'impression que je suis assez étonné d'ailleurs que le schéma choisi ait été celui de Luis Enrique. C'est un peu comme une sorte de manque, comme tu le dis, manque d'idées, tu vois, par rapport à l'évolution du foot. Donc est-ce que, là, moi je ne connais pas du tout De La Fuente, hein, mais est-ce que justement il y a cette réflexion-là? Parce que tu vois, je faisais la réflexion, alors moi je l'ai faite mille fois, en parlant de ces équipes de handball, alors moi en plus c'est pas du tout ma culture, c'est-à-dire que je dis même pas que quand c'est bien fait, même quand c'est bien fait, si tu veux, je sais pas, c'est pas un truc qui me fascine, et à l'inverse, une équipe de transition qui est parfois décriée pour ça, je considérais que c'est bien, voilà, bon, c'est une histoire de verticalité, de rapidité, c'est, bon, après c'est une histoire personnelle et culturelle. Le
football d'aujourd'hui, il est plutôt ça, quand
peut-être,
même,
hein. mais surtout, il est surtout, pas dogmatique non plus, c'est-à-dire que si tu as les qualités, ces qualités, cette capacité à avoir de la possession et à faire des passes, et la qualité de passe, elle restera toujours un fait majeur dans le foot, mais que tu en plus tu es capable, c'est ce que je disais sur même un Giroud en équipe de France. Tu vois, si tu es capable d'intégrer un profil différent dans ton équipe, tu donnes une force supplémentaire à ton équipe. Et donc, est-ce que l'Espagne va pouvoir entamer cette révolution culturelle et par exemple pouvoir se donner la possibilité d'avoir un neuf, alors pas seulement ça, hein, mais aussi de lui mettre des ballons dans la boîte, parce que c'est pas une insulte que de faire au football que de faire ça, non. Y compris dans les 10 dernières minutes d'un match.
Mais regarde en Liga, le truc aussi c'est qu'on a l'impression que les Espagnols ne dribblent pas, il y en avait qu'un qui dribblait, il y avait vraiment qu'un seul profil de type capable de dribbler, c'est Nico Williams. Tu regardes les autres, il n'y en a pas beaucoup qui dribblent sur un côté et qui font des centres et qui débordent, etc. Et c'est le problème. Et il n'y en a pas beaucoup en Espagne, malheureusement. Mm-hmm. Quand tu vois ceux qui font ça dans les grands joueurs dans Liga espagnole, c'est Vinicius avec le Real, c'est Dembélé avec le Barça, c'est Carrasco, on va dire, avec l'Atlético. Tu vois, t'as pas beaucoup de joueurs de ce type. Alors déjà dans le football mondial, il y en a pas beaucoup hein, de très bons comme ça. Mais il y a peut-être une question. Une réflexion à faire sur la formation. Est-ce que finalement on n'est pas en train de former toujours les mêmes joueurs en Espagne, c'est-à-dire avec cette omniprésence du milieu de terrain, peut-être petit, ultra technique, etc. Peut-être qu'il faut réfléchir à cela, et peut-être que le fait que Luis de la Fuente soit quelqu'un qui travaille beaucoup avec les jeunes, peut-être qu'il va pouvoir faire émerger en sélection des joueurs qui n'avaient pas forcément le profil qui plaisait à Luis Enrique.
Fred, je te déclare officiellement en vacances de l'Afterfoot jusqu'à la reprise de la Liga.
Bah, c'est loin, ça, non? C'est quand la reprise de la Liga?
Le 30.
Ah, dès le 30, d'accord.
Ouais, il y a une journée, enfin, c'est même 28, c'est 28.
Enfin, je te dis ça, s'il si y a de l'actu, hein, t'es chez toi. Hein.
Bah, bien sûr, bah, bien entendu.
Si Zizou remplace Deschamps, on t'appelle quand même, hein, Fred, t'inquiète pas.
Ah ouais, n'hésitez pas, de toute façon, je touche pas. j'ai fait mon sapin. Non, là,
ce qu'il faudrait surtout, c'est que Zidane t'appelle, surtout avant qu'on t'appelle.
Ouais, ça, t'inquiète pas, j'ai la pression.
Non, finalement, je te déclare pas du tout en vacances, tu restes là.
Non, d'accord, très bien.
Qu'est-ce qu'il en dit, Zizou? Il t'a appelé, Fred, non?
Non, il m'a pas appelé. Ça fait un moment qu'on s'est pas parlé. On s'échange un message il y a quoi, il y a un mois, un truc comme ça. Mais après, qu'il attend l'équipe de France, c'est que, on va dire que les gens qui sont proches de lui attendent l'appel de Zizou prenant l'équipe de France. Ça, je pense qu'on peut le dire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un gros secret. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne fait que se confirmer.
Fred, merci. Faut qu'on y aille.
Allez-y. Hein.
salut Fred, à plus, bonne soirée. Le Brésil dans quelques instants dans l'After.
Intégrale Coupe du Monde.
Gilles d'Abrivois.
On est là jusqu'à minuit dans l'after. Ensuite, ce sera la libre antenne avec Nico Villas, que je vois déjà dans le studio. Il a sorti son plus beau maillot du Nigeria. En attendant, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau également, Mohamed avec moi ici.
Ça,
dans
c'est un maillot de
Qatar.
Foot.
Le maillot de Nico Villas, oui, c'est un maillot historique celui-là, là, qui porte. Salut Nico.
Comment ça va? Yekini 94. Il est floqué et tout.
Ah, c'est le bon depuis tout à l'heure, Yekini. Quelle puissance.
Le fameux
Rachidi
blanc.
Yekini.
Quel joueur.
Ouais. Le maillot bison.
Du Nigeria. Ouais, ouais, vraiment. C'est le Nigeria 94. C'était 94,
c'est l'extérieur. C'était le Preben Elkier Larsen du Nigeria.
Exactement.
Yekini.
Alors, 94. On a un autre maillot, c'est Antoine qui a gagné le maillot Footlocker du sort, maillot des Pays-Bas. Ah, bravo. Bravo Antoine, prochain maillot à gagner demain.
Gagnez votre maillot sur RMC avec footcorner.com. Les maillots de vos équipes favorites et toutes les plus grandes marques de sport sont sur footcorner.com.
Si vous me donnez les trois buteurs d'Alençon contre Le Havre, je vous offre un maillot d'Alençon.
Moi, je veux bien un maillot d'Alençon, mais pour de vrai en plus.
Alors, on m'a parlé de Roger Dupont, le boulanger d'Alençon.
Ne dénigre pas Amaury Tessier et Hakim Mdaoui, s'il te plaît.
Ah, François Vasseur, l'instituteur.
Un peu de respect. Quand même.
je voulais qu'on fasse un grand débat sur le Brésil. Le Brésil est-il pour vous le favori numéro 1 ?
On a une minute.
On voilà. A une minute. Mais je pense qu'on peut le refiler doucement à Villas. Vous voyez, je pense que.
Bah si, c'est-à-dire vous êtes supporter du Brésil derrière de n'importe qui, 32-16. Hein. Max vous attend voilà. Déjà au standard. De toute façon, nous, on prend tout, les gars. Tout ce qui reste, là. Il te reste quoi, là, Gilbert ?
Bah là, j'ai le Brésil. On a
vas-y,
fait
vas-y, on prend. Vas-y, quoi d'autre ?
Pays-Bas, Argentine, on n'a pas trop fait.
Vas-y, on prend quoi d'autre ?
Non, parce que Pays-Bas, Argentine, ça a été fait entre 20 et 22.
C'est pas grave, on prend ce qui reste. Voilà, mais t'as pas parlé de Paul, d'un remplaçant, le gardien.
Brésil, Croatie, on n'en a pas parlé. Ça commence à 16h, quand même. C'est première.
Moi, je connais bien Nico Villas. C'est marrant. Il commence à rien dire sur le Portugal. Le mec commence à se fermer comme une huître.
Pourquoi?
Hop, genre en scred, je viens avec un maillot du Nigeria, comme ça je brouille les pistes.
Alors, attention, j'ai dû mettre un maillot du Portugal. Non, si j'ai peut-être mis un maillot du Portugal depuis le début. Non, je change. En fait,
ça leur a
fait péter la garde-robe.
Nico.
Bah écoute, on en parlait hier d'ailleurs avec Roland. Enfin, j'ai envie de te dire oui, ça paraît très logique. Il est tellement imprévisible, Santos, que moi je te dirais oui comme ça, mais je pensais pas du tout que Ronaldo, d'ailleurs comme le 100% de la presse portugaise avant le match, le dernier match de la Suisse, qu'il allait pas être titulaire. Donc je pense que Ramos sera titulaire. Enfin, ça paraît très logique quelque part, mais l'imprévisibilité
après avoir
de Santos.
Après avoir fait le plus dur, je parle de Santos. Si là, il le remet Cristiano alors qu'il a fait le plus dur, il a montré la face entière.
Non, le plus dur,
il l'avait annoncé quand même.
Le plus dur, ce sera de pas le faire, hein, surtout. Mais bon, après, la compète n'est pas encore finie. Donc,
bien sûr. Mais en tout cas, faut reconnaître que là, quand tu fais un choix comme ça et qu'il est validé de cette façon, ouais.
Entre la décla de la veille où en gros il lui met un tir en conf et le lendemain il le met pas titulaire, c'est sûr que celle-là, il y en a pas beaucoup qui la voyaient venir. Mais.
La Ligue Antenne jusqu'à 1h du matin. Mohamed, merci d'être venu. Tu as un dernier mot, je sais pas, un message
Non, merci à tous, merci pour l'accueil. C'est un vrai plaisir pour un auditeur depuis 2008. Ça fait plaisir. Juste, Nico, si tu pouvais nous aider, donne-nous 2-3 tuyaux pour battre le Portugal.
Je peux pas. Franchement, là, je peux pas. Non, je peux pas. Il y en a déjà plein, hein, tu sais qu'au Portugal, ils adorent faire ça, les joueurs marocains historiques, Hassan Nader, Mustapha Hadji, Nordin Naibet, là, il y a plein de papiers.
Ah oui, Naibet. Ouais, Naibet.
Ah non, il y a eu un sacré, il y a beaucoup, beaucoup de très bons joueurs du Maghreb au Portugal, historiquement.
Voilà, merci Stéphane, hein. Merci Florent.
Salut,
la libre antenne avec Nico et l'after revient demain avec le début des cartes finales, évidemment. Bonne nuit à tous.